Il ne faut en aucun cas laisser les gouvernements écrire seuls l'histoire.
Alger, février 1956, le gouvernement socialiste renonce.
On peut dire que d'à partir du 6 février, le gouvernement français a perdu le contrôle réel de la population française d'Algérie. À partir de ce moment-là, il suffisait que 50 types de babelouettes se réunissent autour de la place des Trois Horloges qui est grande comme cette pièce pour décider que l'on devait faire ça et ça à Paris et ne pas admettre qu'il n'en soit pas ainsi. Si vous voulez, tout le prestige, toute l'autorité française chez les Français d'Algérie a été détruite à cause du 6 février.
C'était Jacques Chevalier, le maire libéral de l'époque à Alger. En janvier 1956, des élections anticipées conduisent à la constitution d'un gouvernement dirigé par le numéro 1 du Parti Socialiste, Guy Mollet. Il avait fait campagne en métropole pour l'apaisement en Algérie, mais de l'autre côté de la Méditerranée, les forces de dialogue sont laminées et la radicalisation semble devenue irréversible. Quand Mollet effectue sa première visite à Alger, il se retrouve prisonnier d'une foule d'Européens hostiles. Il avait, il est vrai, choisi le 6 février, date fatidique pour la République, en 1934 déjà. Sous les huées et les projectiles d'hiver, il en vient à murmurer « C'est le Golgotha !» et il cède à la pression. Élu sur la promesse de conjurer le terrorisme comme la répression aveugle, il va déchaîner l'un et l'autre. Du plus long gouvernement de la 4ème République, le Parti Socialiste sortira affaibli et bientôt amputé de sa gauche morale. Surtout la 4ème République, malgré ses succès en bien d'autres matières, se brisera sur cette question de l'Algérie. Pierre Mendès-France, quand il avait démissionné du gouvernement Mollet, avait expliqué qu'on pouvait difficilement maintenir la démocratie si on ne respectait pas la parole donnée lors des élections.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Michel Vinoc, bonjour.
Bonjour.
Alors, historien bien connu, vous venez de publier chez Gallimard un Mitterrand. Mitterrand était garde des Sceaux du gouvernement Guy Mollet, un Mitterrand de haute volée, hein, bien écrit. Qu'il croirait, vous étiez aussi un contemporain. C'était votre première année à la Sorbonne, cet hiver très froid de 56.
C'est vrai, j'avais 19 ans, 18-19 ans. Je ne votais pas encore, puisque la majorité était à 21 ans. Mais j'étais si passionné par les événements politiques, par la guerre d'Algérie, etc., que j'ai fait campagne, notamment auprès de ma famille, pour qu'ils votent, pour qu'elles votent pour le Front républicain, parce que j'avais été, comme beaucoup de gens de ma génération, formé à la politique, invité à m'intéresser à la politique par Pierre Mendès-France, qui avait, avec une maestria qui nous semblait extraordinaire, résolu le problème de l'Indochine, de la guerre d'Indochine, etc. Et ce Mendès-France, eh bien, il faisait partie de l'alliance avec les radicaux, alliance avec le Parti Socialiste, un certain nombre de gaullistes comme Chaban-Delmas, etc., dans un front républicain, c'est-à-dire la gauche non communiste. Alors, elle l'emporte, mais pas suffisamment pour avoir la majorité absolue.
Mais c'est une habitude sous la 4ème République. La question algérienne n'est pas la seule qui est traitée pendant la campagne électorale. Le Front républicain, quand même, est obligé de mettre l'accent sur la crise qui se développe depuis novembre 1954 de l'autre côté de la Méditerranée, à laquelle est extrêmement sensible Albert Camus, dont les positions, à l'époque, peut-être, n'étaient pas si éloignées de celles du Front républicain. Je voulais qu'on commence l'inventaire de ces premières semaines de 56 par la trêve civile que tente d'initier Albert Camus. Albert Camus qui disait que l'Algérie, ça n'est pas la France.
Exactement. On croit que pour lui, c'était la France parce qu'il était hostile à l'indépendance. Mais il a dit, répété, écrit, l'Algérie n'est pas la France, comme on s'obstine à le dire avec une superbe inconscience. Pour lui, l'Algérie, c'était un territoire où vivaient, coexistaient, tant bien que mal, deux peuples. Et ce qu'il voulait, c'était l'association des deux peuples.
Mais deux peuples, je serais curieux de savoir comment vous les nommez. Parce que le comment vocabulaire était incertain à l'époque.
Oui, comment lui les nomme? Il les nomme, quand il parle de l'association, il dit le peuple musulman et les Français d'Algérie. Mais le plus souvent, sous sa plume, il dit les Arabes. Les Arabes, en oubliant un peu les Berbères et les autres minorités, mais enfin, pour lui, il y a les musulmans et il y a les Français d'Algérie.
22 janvier, alors qu'à Paris, on est entre les élections et la constitution du gouvernement, qui le dirigera, c'est une autre question, Camus convoque une réunion avec apparemment la bénédiction du leader arabe Ferhat Abbas et la présence de son ami Amar Ouzeghan, qu'on entend ici raconter comment cette tentative de trêve civile qui aurait permis l'approfondissement des relations entre les deux communautés va avorter dans une salle de réunion assiégée.
Pour Camus, il lui a fallu un énorme courage pour venir en 56 à Alger, pour venir parler ici. Et il a parlé pour des gens qui étaient et des indigènes et des Français, pour ne pas dire des Algériens. Sinon, ils l'étaient tous Algériens à cette époque-là. Simplement, des Algériens avec des optiques, non pas différentes, mais des optiques, comment pourrais-je dire, des optiques brouillonnes, des optiques chauvines, si vous aimez mieux. C'était trop passionnel à cette époque-là. Vraiment trop passionnel. Il faut avoir vécu la guerre d'Algérie à l'intérieur des terres d'Algérie, pour se rendre compte des états d'âme des gens. Le fait est qu'il ait accepté de prendre cette responsabilité et le fait est qu'il ait parlé devant tout le monde alors que dehors, il y avait une masse d'autres gens qui gueulaient à tue-tête pour essayer d'empêcher les gens d'écouter à l'intérieur.
Et à l'extérieur, il y a des manifestations d'ultra-européens
qui criaient à bas Camus, à mort Mendès France. Ce qui fait que c'est nous qui avons profité de la circonstance. On a profité de cette situation pour essayer de convaincre les partisans de la trêve civile, c'est-à-dire les partisans d'une guerre moins cruelle, voyez. Alors il fallait faire la preuve que non seulement l'entente n'était pas possible et que la cause c'était une crapule.
Dans une émission de Jean Montalbetti sur France Culture, un second témoignage, celui de Imon Brahimi, qui représentait beaucoup plus le point de vue du FLN qu'Amar Ouzeghan. Le point de vue des radicaux du FLN qui disent, ben voilà, la preuve est faite que la conciliation, ce n'est plus possible. Comment disait Fanon que le point de non-retour est atteint?
Oui, le point de non-retour, pour lui, Fanon, c'était ce qui s'était passé à Philippeville et dans la région au mois d'août 1955, lorsque, après les massacres de plus d'une centaine de Français d'Algérie, j'allais dire, mais aussi d'Algériens, enfin, aussi bien musulmans que Français d'Algérie, il y a eu une répression terrible. Une répression, le FLN a pu dire qu'il y a eu 12 000 Algériens massacrés, ce n'est pas vrai, c'est exagéré, mais les chiffres officiels portent tout de même le total à plus de 1200 morts.
Mais alors, j'allais dire que c'est ce que le FLN souhaitait en mettant en scène les massacres des Européens,
bien sûr.
C'est la montée aux extrêmes.
Exactement, et rendre les choses irréversibles. Et alors Frantz Fanon peut dire que dans toutes les luttes armées, il y a un moment, il y a un point de non-retour, et que par conséquent, après les ce qui est passé à Philippeville, c'était fini, la guerre était engagée définitivement.
Ce que ne comprenait pas nécessairement celui qui allait être désigné comme président du Conseil, ce ne fut finalement pas Pierre Mendès France, mais le premier secrétaire de la SFIO, le parti socialiste d'alors, le parti le plus important dans le front républicain, il s'appelait Guy Mollet. J'aimerais que vous me tentiez un portrait de Guy Mollet. Je vais vous lancer ainsi. Georgette Elgey, la grande historienne de la 4e République, commence le sien propre de Guy Mollet en disant « Je sais que ce que je vais dire provoquera l'indignation de Michel Vinocq, mais moi, j'avais des raisons d'aimer Guy Mollet. Et vous ?»
Bah, pourquoi pas? Moi, j'avais des raisons, mais je n'étais pas le seul de ne pas l'aimer. C'est une affaire de génération, sans doute.
C'est un ancien résistant, c'est un syndicaliste vindicatif et opiniâtre, c'est un homme modeste.
J'y arrive, mais une petite anecdote pour introduire Vidal Naquet, qui a été un grand historien et un militant contre la guerre d'Algérie, a pu écrire dans ses mémoires que le jour de la mort de Guy Mollet, il a bu le champagne en famille. Vous vous rendez compte de l'excès, par conséquent, de détestation qui pouvait exister.
Alors,
qui
était? Mais à l'époque, on le savait pas. C'était...
Ah bah, il commençait.
On n'avait pas ce portrait.
Écoutez, il commençait au mois de février. Il a été investi le 1er février. Personne ne s'attendait à ce qui allait se passer quelques jours plus tard. Donc, Guy Mollet est un homme tout à fait, a priori, estimable, un ancien résistant, un homme certainement courageux, ancien professeur d'anglais, tout à fait respectable, un peu moyen, si vous voulez, un peu apparatchik.
Vous dites ça parce qu'il a épousé une femme de ménage de lycée?
Ah, alors là, vous êtes
c'est
quand même
bien
un
pour
petit
un professeur.
Peu dur, un petit peu dur, parce que je n'ai pas ce genre de préjugés, étant moi-même le fils d'un receveur d'autobus.
Et lui, le fils d'une concierge.
Voilà. Par conséquent, écartons cela. Ce n'était pas un aigle du point de vue intellectuel, et c'était un homme d'appareil. Et il tenait parfaitement la SFIO à l'époque. Et sans doute était-il plein de bonne volonté. Cela dit, il partageait avec l'ensemble de la classe politique ce préjugé, disons, que l'Algérie, c'est la France, et que il fallait défendre, par conséquent, l'Algérie. Alors, on pourrait...
Mais on va quand même voir comment sa position va évoluer en peu de jours. Michel Vinocq, il renvoie Jacques Soustelle, qui apparaissait comme étant devenu un partisan des plus ultras, alors que c'était pas du tout sa position de départ. Il décide de mettre à sa place un octogénaire, le général Catrou, qui lui a la réputation d'être un libéral, et il s'en va préparer l'installation du général Catrou à Alger, et c'est la journée du 6 février, ici racontée par les archives Gaumont, c'est les films du cinéma, et puis le témoignage de Jacques Chevalier, toujours lui le maire d'Alger.
Dans Alger, les magasins européens s'étaient fermés en signe de protestation contre la nomination du général Catrou. Et c'est dans une ambiance fiévreuse que le chef du gouvernement s'est rendu au monument aux morts.
Monsieur Jacques Chevalier, alors député maire d'Alger.
Monsieur Guy Mollet, donc, arrive à Alger. Ben, moi, je suis arrivé pour le saluer à l'aérodrome. Et je venais de passer à travers toute cette foule. Il y avait 150 000 personnes contre Alger et Maison-Blanche. Je me disais, qu'est-ce qu'il va prendre? Mais Guy Mollet est venu aller au monument aux morts, déposer la gerbe. Alors là, ça a été affreux.
C'est là que les premiers incidents devaient éclater.
Ça a été une pluie de tomates, de barres de fer, de billes de plomb. Ça a été horrible.
Devant la violence de la manifestation, la police dut employer les grenades lacrymogènes.
De sorte que le président du conseil est obligé précipitamment de sauter en voiture et de regagner le palais d'été où il a été pratiquement prisonnier pendant 2 jours.
Alors les manifestants, ce sont des activistes, les étudiants qui préfèrent les matraques aux livres, les guérilleros du Christ roi, etc. Mais... quand même, Guy Mollet est très très impressionné parce que il voit des ouvriers qui lui crachent à la figure.
Exactement. Vous savez, Albert Camus disait que 80% des Français d'Algérie n'étaient pas des colons, mais des salariés ou des petits commerçants dont le niveau de vie était souvent très inférieur à celui de la métropole. Donc, pour un socialiste, c'est effectivement une grande émotion que de voir des gens comme cela, des salariés, des ouvriers, des petites gens lui cracher à la figure. C'est sûr, c'est une émotion considérable dont il ne va pas se remettre.
Ce sont mes électeurs, aurait-il murmuré en disant « nous commençons bien mal ». Alors le voilà à Alger pour un temps un peu plus long que prévu. Il est plutôt habitué, lui, au cabanon des plages du Nord qu'à l'atmosphère de la capitale de l'Algérie.
J'aime toutes les villes, un peu plus Paris. Les quilles magiques comme l'Algérie, comme elle est belle, on a habba, tu te rebelles, paye une coude ma, t'en es ça, Alger, Alger, j'en ai habba. 105 Bolouima au Baba. De son soleil, je ne puis me passer. Depuis mon enfance, me tirer dans ses rues sans me lasser.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Alger, le 6 février 1956, en a laissé le président du Conseil nouvellement nommé, qui voulait installer le général Catroux au poste de ministre résident, prisonnier de cette fastueuse demeure mauresque qu'est le Palais d'été. Il a même, Michel Vinocq, des difficultés à passer ses coups de fil parce que les standardistes européennes d'Algérie interviennent dans les conversations qu'il a avec Paris.
Complètement prisonnier. Alors, ce qui s'est passé est évidemment très troublant pour lui. N'oublions pas qu'il a été investi par l'Assemblée nationale avec une majorité exceptionnelle. Exceptionnelle, puisque les communistes qui cherchaient l'alliance avec les socialistes, qui voulaient refaire un front populaire, etc., ont voté pour lui. Donc, il arrive à Alger avec 420 voix, c'est-à-dire qu'il a derrière lui le pays. Il a l'immense majorité des électeurs français. Or, c'est lui qui va capituler. C'est cet homme-là, investi de cette puissance politique, qui va capituler devant quelques centaines, milliers de lanceurs de tomates et de pourris.
Et d'oranges et de billes de plomb.
Ah. Et de billes de plomb.
Le général Catroux téléphone, enfin la conversation n'a pas dû être trop interceptée, et dit « je ne viens pas ». Et qu'est-ce qu'il décide en écoutant peut-être Lili Boniche? Lili Boniche avait 35 ans à l'époque, on l'a écouté assez longuement. Qu'est-ce qu'il décide, Guy Mollet? Pourquoi hélas?
Eh bien, il accepte la démission de Catroux.
Oui.
C'est-à-dire que c'est la reculade. La reculade totale. Et comme l'a dit Jacques Chevalier, que l'on a entendu tout à l'heure, c'est un pas en arrière décisif, parce que désormais, les ultras d'Alger savent qu'ils détiennent un pouvoir considérable face à l'État. L'État français, la République, s'est humilié devant une manifestation à reculer, et cela va avoir des effets considérables sur l'avenir. On a pu dire que le 6 février 1956, c'était le prélude au 13 mai 1958.
À la chute de la 4e République. Pourtant, il sort de son chapeau, Guy Mollet, un homme impressionnant, à forte carrure, qui a de la gueule, qui est pas bégueule, qui arrive avec des lunettes noires et un chapeau, qu'il ne quittera pas pendant tout son séjour de ministre résident en Algérie. C'est Robert Lacoste, élu de la Dordogne, avec qui il va obtenir, Guy Mollet, les pouvoirs spéciaux. Parce que depuis 1955, il y avait l'état d'urgence, mais il y a un moment où l'état d'urgence, chacun en sera d'accord, n'est pas suffisant, et donc on demande davantage, et c'est obtenu en mars 1956.
Après trois séances pathétiques, l'Assemblée nationale, à une très large majorité, accorde au gouvernement les pouvoirs spéciaux en Algérie. Les Parisiens suivent en nombre un débat qui fera date dans l'histoire.
J'ai voulu que l'Assemblée, le Parlement, nous donne les pouvoirs spéciaux dont nous avons besoin. Et je demande maintenant à Monsieur le ministre, résident en Algérie, de vouloir bien vous dire ce qu'il nous a dit lors des derniers conseils des ministres sur ce qui est à faire là-bas.
Nos mesures, nous devons les prendre d'une façon simultanée. Elles sont interdépendantes. Nous allons résister sur le plan militaire à l'attaque. Nous allons, par des moyens légaux, défendre l'ordre, mais en même temps, nous allons faire du progrès et de la justice, et nous allons bâtir dès maintenant une Algérie meilleure, preuve que nous voulons que l'Algérie demeure française.
Juste une remarque avant qu'on analyse avec vous, Michel Vinocq, les propos de Robert Lacoste. Ce qui est bien, parce qu'il faut reconnaître ce mérite à Guy Mollet, c'est qu'il parle aux Français par la radio et par la télévision. C'est le début des interviews par Pierre Sabag, en l'occurrence.
Nous aurons le droit, tous les samedis soirs, à un petit discours du chef du gouvernement, de Guy Mollet, le quart d'heure de Guy Mollet. Il faut dire qu'il avait un précédent, c'était Mendès France qui, lui, toutes les semaines, effectivement, parlait à la radio. Mais avec le progrès. Désormais, c'est à la télévision que Guy Mollet va s'adresser aux Français.
Alors, Robert Lacoste parle aussi, c'est lui qu'on vient d'entendre, le ministre résident. Quand il était en Dordogne, président du Conseil Général, il avait dans son bureau le portrait du maréchal Bugeaud, le grand pacificateur de l'Algérie, je mets des guillemets un peu partout, pendant la monarchie de Juillet, élu de la Dordogne lui aussi, Bugeaud. Ça vous étonne de la part d'un socialiste ?
C'est une référence assez sinistre quand on connaît les méthodes de la colonisation du maréchal Bugeaud. Mais enfin, chez lui, mais du reste chez beaucoup de socialistes, le Guy Mollet le premier, n'oublions pas qu'une partie des Algériens, des électeurs français d'Algérie qui votaient socialistes. Donc les socialistes n'étaient pas tout à fait des anticolonialistes, hein, absolument pas. Et pour eux, il allait de soi, et à l'époque c'était très partagé, que l'Algérie était française. Guy Mollet, au cours de ce débat, n'est-ce pas, sur les pouvoirs spéciaux, que vont voter encore une fois les communistes, les députés communistes.
Ah ben attendez, Jacques Duclos, il a dit, on vote, c'est pour lutter contre les grands spéculateurs coloniaux.
Oui, voilà. Alors, lui, Guy Mollet, déclare, au cours de ce débat, nous rejetons absolument l'idée d'un État algérien qui ne correspond à aucune réalité. Et c'est ce que reprend Robert Lacoste en disant, l'Algérie est française, restera française, et puisque on est contesté sur ce terrain-là, ben on fera la guerre. Et les pouvoirs spéciaux, du reste très mal définis, c'était des pouvoirs exceptionnels.
En quoi c'est mieux que l'état d'urgence ?
Bouf. En tout cas, ça permettait au gouvernement de prendre des décisions sans en référer au Parlement. Et puis on peut dire que de là, ça permettait au pouvoir civil de laisser le pouvoir au pouvoir militaire.
Alors voilà, c'est là la différence peut-être avec l'état d'urgence. Est-ce qu'on peut détailler ? Vous avez publié ce livre sur François Mitterrand. Il est garde des Sceaux du gouvernement Guy Mollet. Alors vous dites qu'il reste. Mendès-France va partir, mais Mitterrand reste parce que dans ces périodes-là, c'est pas bien d'apparaître comme moins ferme que les autres.
Oui, sans doute. Bon, il y avait beaucoup de raisons pour lui de rester. D'abord parce que n'oublions pas qu'il avait tout de même l'ambition de devenir un jour le chef du gouvernement et qu'il ne pouvait pas se séparer du Parti Socialiste. Bon, ça c'est une des raisons. Mais il avait des convictions. Et à l'époque, il est tout à fait partisan de la fermeté face aux nationalistes algériens. Lui aussi défend le principe de l'Algérie française.
Et la substitution de la justice militaire à la civile ?
Ben oui, pratiquement. Hein. Et il va se montrer implacable dans son rôle, dans sa fonction de garde des Sceaux.
Alors, il y a une fonction très importante à l'époque aussi, c'est celle de ministre de la Défense nationale. Elle est tenue par Maurice Bourgès-Monnury, député de l'Aveyron. Et on va voir peu à peu les renforts militaires arriver. Parce que Guy Mollet, il était partisan du service militaire d'un an pendant sa campagne électorale. Et puis, oui. Au fond, quand il partira, le service militaire sera à 27 mois.
Exactement.
Et beaucoup d'appelés se retrouvent en Algérie.
Alors, il commence par décider le rappel des disponibles. Des disponibles, c'est-à-dire ceux qui ont déjà fait leur service militaire, mais qui, selon la loi, sont disponibles pour une durée de 4 ans et demi. Alors, il en rappelle 70 000 plus 50 000, et simultanément, il élève la durée du service militaire. Elle était de 18 mois à l'époque, ça devient 24 mois, puis, vous l'avez dit, 27 mois.
Oui. Néanmoins, la situation est embarrassante, enchevêtrée, entremêlée. Hier, nous recevions Michel Vinaver, formidable pionnier du théâtre d'actualité. Figurez-vous qu'il a écrit une pièce qui n'a pas eu beaucoup de succès à l'époque, mais qui a été rejouée ici par la Comédie Française, Jean d'Outremer et François Beaulieu, qui s'appelle « Les huissiers ». Alors, on voit un ministère dans la tempête, on est à Paris, les huissiers, chacun suit son petit bonhomme de chemin, et puis les membres du gouvernement discutent très sincèrement, entre eux.
Cette fois-ci, au moins, on saura.
Quoi ?
Que le ministre de la Défense prend toutes les initiatives pour chercher des interlocuteurs valables en vue d'en finir avec cette rébellion, et que le ministre résident prend toutes les initiatives pour saborder la moindre amorce de négociation. On saura. Et on se demandera qui commande aux armées, qui gouverne la France. Prends garde que tout ceci ne finisse un jour par tous nous emporter.
Je viens de lui parler. Il est lui-même très embêté.
À Paris?
Non, j'ai eu Alger. Il est très, très gêné. Tu sais que la situation là-bas est très enchevêtrée. Il n'a pas les mains libres.
Qui, je te le demande, a les mains libres?
Précisément. Il faut qu'il compte avec les ultras, les paras. Et de l'autre côté, s'il ne faisait pas face aux actes de plus en plus caractérisés d'insubordination, il faut, à mon avis, une réaction énergique.
De quel ordre?
Je ne sais pas, c'est délicat. Une manifestation de l'horreur unanime qu'éprouve le pays, qui est dans un sursaut d'horreur.
Salue les familles éprouvées.
Et affirme sa volonté.
C'est excessivement contrariant.
Alors quand on entend le ton de ces déclarations d'indignation, on se dit que Vinaver, c'est vraiment, comme il l'explique lui-même, du théâtre d'actualité. Michel Vinocq, vous êtes étudiant. Vous voyez quand même dans Le Monde, dans Le Nouvel Observateur, dans Témoignages chrétiens, dans l'Express, des articles qui vous paraissent mieux représenter la réalité de la situation que dans les archives cinématographiques Gaumont ou dans la grande presse?
Certainement. Il y a une presse qui est encore minoritaire, sans doute, mais qui prend des positions plus proches, je dirais, de la réalité que de l'imaginaire. Il y a un imaginaire colonial, un imaginaire impérial, si vous voulez, qui est demeuré très longtemps dans l'esprit des Français, pour lesquels l'Algérie, dont la conquête a commencé en 1830, était une terre française, qu'elle devait rester française, sans se rendre compte d'une réalité qui était l'inégalité profonde qui existait dans sa population.
Mais ce que vous dites là, c'est important, il faut quand même s'y arrêter. Vous êtes en train d'expliquer que Guy Mollet, que vous vilipendez, était populaire, ou que l'opinion pouvait suivre la politique de répression telle qu'elle était présentée, et que peut-être l'esprit colonial était plus fort dans les années 50 qu'il ne l'avait été dans les années 20 ou 30.
Oh, certainement. Certainement. Du reste, dans les années 20, on se fichait pas mal des colonies. L'intérêt pour les colonies a commencé avec l'exposition coloniale, n'est-ce pas, c'est-à-dire dans les années 30. Et l'Algérie était à part, mais tout de même, pour un certain nombre d'esprits, il y avait cette réalité qui était un mouvement lourd de l'histoire, qui était la décolonisation. Les Français même, dès l'année 56, donnaient leur indépendance aux Marocains, aux Tunisiens, et entre les deux, il y avait cette Algérie qui, alors, échapperait à la décolonisation. Alors, la réplique, c'était, oui, mais il y a un million de Français d'Algérie qui y vivent. Soit. Et c'est pourquoi, évidemment, il y a eu la guerre, et une guerre qui n'en finissait pas, parce qu'on ne trouvait pas de solution. Alors, la solution de Camus, l'association, a été un moment, l'idée du général de Gaulle, rappelez-vous, le discours du 16 septembre 1959, lorsqu'il dit, il y a trois solutions, et parmi les trois solutions, ils ont privilégié une, évidemment, c'est l'association. Deux ans plus tard, c'est fini. Il a compris que c'était irréversible, que le peuple algérien, qui au départ pouvait être hésitant, s'est rallié à l'idée de la souveraineté, à l'idée de l'indépendance. Et cela, ça n'a pas été compris. En tout cas, c'était pas du tout, en 1956, dans la tête de nos hommes politiques.
Et vous étiez, et ce que vous suiviez, extrêmement minoritaire. Ce que l'opinion comprenait quand même, c'était la volte-face. Enfin, elle comprenait, elle n'admettait pas. Quand Mendès France démissionne, il dit, si on veut maintenir ou recréer la démocratie, la première chose à faire, c'est de tenir ses paroles.
Eh oui. Guy Mollet, c'est pour cela que nous ne l'aimions pas, c'est que par rapport à ce qu'il faisait, était en contradiction totale avec la campagne électorale qu'il avait menée.
Vous avez commencé en disant « je n'aime pas Guy Mollet » et vous pensez que vous avez convaincu suffisamment d'auditeurs pour dire maintenant « nous n'aimions pas Guy Mollet ». L'émission a été préparée par Frédéric Martin, Franck Olivard, Ilinka Negulesco, Clara Garçon, à la technique Hélène Langlois. Merci à vous, Michel Vinocq. Je rappelle votre dernier livre. Il est consacré à Mitterrand aux éditions Gallimard. Et la réalisation, c'était Jacques Sigal.